Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Quand on rêve d'art, jours et nuits, lorsque l'on aime les artistes, on a envie que surgisse dans le paysage de l'art une comète nouvelle, une surprise, un inattendu absolu. Eh bien, c'est arrivé à New York, dans les bas-fonds de New York, pourrais-je dire, ou simplement dans le sud de Manhattan. C'était en 1980, il s'appelait Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, 8 ans d'intensité, une carrière incroyablement courte, peut-être comme celle de Van Gogh ou comme celle d'Yves Klein, ou peut-être comme celle, par exemple, d'Egon Schiele. Jean-Michel Basquiat, une exposition formidable à la Fondation Louis Vuitton sur un personnage inclassable, un style râpeux, un style énervé. C'est peut-être la colère, c'est peut-être le génie, c'est peut-être la virtuosité. En tout cas, c'est absolument l'énergie et l'intensité. Pour en parler, j'ai avec moi Michel Nuridzani qui a publié il y a 2 ans un livre extraordinaire avec un tempo, avec un beat comme ça formidable qui s'appelle Jean-Michel Basquiat aux éditions Flammarion, une biographie extrêmement intense. J'ai avec moi également notre partenaire Beaux-Arts Magazine, Fabrice Bousteau, directeur des rédactions de Beaux-Arts et du Quotidien de l'Art. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Très bien.
Bon, vous avez fait un numéro spécial, Egon Schiele, Jean-Michel Basquiat.
Oui.
Et c'est pas absurde comme rapprochement ?
C'est pas absurde, d'autant que dans le magazine, dans le mensuel, qui est en kiosque en ce moment, avec un grand dossier consacré aux nouvelles formes de censure, on a justement fait un parallèle entre Schiele et Basquiat, évidemment deux destins tragiques, deux des clubs des 27 ans, donc qui meurent très jeunes, et il y a beaucoup de points communs entre les deux, même si, effectivement, ce sont deux artistes de deux époques différentes, et avec des styles très différent.
On est à 80 ans à peu près de différence dans le temps. Il se trouve que les deux expositions ont lieu en même temps à la Fondation Vuitton. Et c'est assez passionnant. Je sais que Michel Nuridzani n'est pas d'accord du tout. T'es furieux de ça, paraît-il, Michel ?
Furieux, peut-être même plus. Je trouve que c'est absurde de les réunir. Je trouve qu'il y a rien. Bon, je fais confiance à Fabrice pour trouver des rapprochements, mais quand on regarde réellement ce qui se passe, c'est le travail de Egon Schiele est quand même un travail très cultivé. Alors que, bon, Basquiat n'était pas sans culture, mais c'est pas un travail cultivé, c'est un travail sauvage. Il travaille dans l'urgence, il travaille avec le beat du hip-hop, de tous ces trucs-là. Pas du tout Egon Schiele. Bon, il travaille avec toutes sortes de choses qui du sampling. C'est quelque chose de très important, c'est qu'il prend des choses qui sont hétérogènes et il les rassemble. Comme les gens qui sont les DJ, quoi. C'est ça. Il n'y a pas ça chez Egon Schiele, parce qu'il n'était peut-être pas DJ.
Alors, on va en reparler, Michel. Hugo Vitrani, notre troisième invité, conservateur au Palais de Tokyo, qui a en ce moment une exposition chez Pommery, hein, une exposition qui s'appelle comment, Hugo ?
C'est une exposition qui s'appelle L'Esprit Souterrain, qui est un titre de Dostoïevski.
C'est un beau titre, et au fond, Egon Schiele et Basquiat sont des esprits souterrains de leurs époques. Parce que vous avez beau dire, Michel Nuridzani, Egon Schiele est quand même dans la marge de son époque.
Basquiat n'était pas du tout dans la marge de son époque, il était en plein dans son époque. Encore une chose qui les différencie.
Alors, Fabrice Bousteau.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, quand même. Dans le style, d'une certaine manière, il y a un expressionnisme sauvage de la part des deux. Il y a un langage totalement nouveau à inventer l'un par l'autre. Il y a des éléments aussi, des points communs. Par exemple, assez étonnant, un parallèle qu'on puisse faire entre les mentors de Schiele et le mentor de Basquiat. C'est-à-dire d'un côté Klimt.
Vous voulez dire que Klimt, c'est le Warhol de Basquiat?
C'est le Warhol de Basquiat d'une certaine manière. Et où je ne suis pas d'accord avec Michel,
Warhol n'était pas le mentor, c'était le modèle.
C'était un modèle, mais qui est devenu, d'une certaine manière, un mentor. Mais l'autre élément que je trouve très caractéristique, c'est, et là je ne suis pas d'accord avec toi Michel, c'est au contraire la culture. C'est que je pense qu'on ne peut pas penser Basquiat en ne parlant que du côté sauvage de Basquiat. Basquiat a travaillé considérablement, avait une culture phénoménale, on le sait. Il allait dans les musées avec sa mère très jeune. Oui. Il a une culture... Et une culture tout azimut, c'est-à-dire il s'intéresse aussi bien à la science que à la musique et à tous les types de musique. On en parlera du jazz ou hip-hop. Il s'intéresse
à John Cage.
Il s'intéresse à la littérature. Il est poète également. Donc il a une culture énorme. Il a une vraie culture.
L'un et l'autre, les grands artistes ont une grande culture. Quand on rencontre un grand artiste, on rencontre une bibliothèque, on rencontre un monde mental extraordinairement articulé. C'est le cas de Jean-Michel Basquiat. Mais Jean-Michel Basquiat, avant peut-être de se lancer dans la comparaison avec sa culture, avec les autres artistes, il faut quand même raconter d'où ça vient. Jean-Michel Basquiat, qui est-ce? C'est un artiste. Qui vient d'où? Il est né où? Il est de quelle couleur? Quelle est sa culture?
Il n'est pas noir. Il est métis. Il est devenu noir. Un peu comme Obama. Obama était métis. Pour faire oublier qu'il était métis, il a décidé d'être noir. Et Jean-Michel Basquiat a décidé d'être noir. Le premier artiste noir de l'histoire de la peinture aux États-Unis. C'était très important. Il voulait être star.
Donc père haïtien.
Haïtien, sa mère hispanique.
Et il naît où? Loin de New York, près de New York? Où est-ce qu'il vit?
Il y a le pont entre Brooklyn et Manhattan, il y a le pont. Et puis à 16 ans, il s'entend très mal avec son père qui le considère comme un raté.
Gérard Basquiat.
Très froid avec lui.
Qui le bat, semble-t-il.
Qu'il considère comme un... Bon, il y a un problème entre le père et le fils. À 16 ans, il traverse le pont. Et là, il commence avec un copain de lycée, Aldiaz, à écrire des phrases un peu énigmatiques sur les murs de Manhattan en tant que SMO.
Alors, peut-être Hugo Vitrani, SMO, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on lit SAMO, mais en fait, c'est SMO.
Same O, ça vient de l'expression same old shit. Donc c'est cette répétition.
Vieille merde, quoi.
Voilà. Et donc c'est
ce
pseudonyme qu'il a choisi avec son ami Aldiaz pour peindre pendant un an dans les rues de New York, mais surtout très proche des galeries, puisqu'il s'adressait très vite au milieu de l'art.
Et il y avait un petit C comme un copyright à côté de ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un signe du graffiti, on met souvent des couronnes et des copyrights, on réutilise le langage de la publicité et l'affirmation de soi, donc c'est une question d'ego.
Et comme le dit Fabrice. Hugo, très proche des galeries d'art, parce que c'était un premier combat de la part de Basquiat, c'était de lutter contre le système de l'art et des galeries qui organisaient le système. Donc c'est dès le départ aussi une volonté, un combat très, très clair. D'un artiste noir qui s'affirme déjà comme noir et qui veut lutter contre la domination de l'art des blancs.
Oui, ça existe. Il a commencé à écrire en 77, 78 et en 79, il dit « Semo is dead ».
Alors, il ne le fait pas seul, Semo, ils sont deux.
Oui, ils sont deux.
Et son camarade, plus célèbre que lui, est un grand graffeur, non?
C'est pas du graffiti, ce sont des poèmes. Parce que, si vous voulez, le graffiti, c'est une signature. Lui, c'est des lettres bâtons et il écrit des phrases. Il écrit « Faites une soupe, bâtissez un fort, mettez le feu ». C'est pas du graffiti, c'est des poèmes. Il y a quelqu'un qui a dit, il est le premier graffeur à enduire de poésie les murs de New York. Et Warhol, quand même, qui l'a bien connu, il n'a jamais été un vrai graffeur, non. En fait, il était poète. Oui, il était poète avant, c'est ce qu'il était. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il dessinait, et puis quelqu'un a aimé son travail et lui a proposé de faire une exposition et le reste.
Vous êtes d'accord, Hugo Vitrani, sur ce qui, sur
alors,
ce
que, sur ce qu'on vient de dire? Alors, pour être précis, Basquiat, c'était un graffeur frustré. C'est-à-dire qu'effectivement, il a jamais fait de vrai graffiti, dans le sens où on l'entend à New York dans les années 70. Il était fan de ce mouvement-là, mais il a jamais su faire les lettres que les autres faisaient, et tant mieux. Il a fait mieux ou différent, mais il était totalement fan d'artistes comme Ramelzi, qui était son, oui, son maître à penser, puisque tout le travail de destruction de la lettre...
Qui est Ramelzi?
Ramelzi, c'est un des artistes les plus importants du milieu du graffiti à New York dans les années 70 et 80, qui est un personnage totalement iconoclaste, qui était dans un combat pour affirmer aussi les Noirs dans la peinture, et qui voulait détruire le langage latin. Il avait inventé cet alphabet, l'iconoclaste panzerism, qui était une attaque des lettres latines pour inventer son propre langage, futuriste, gothique... Très engagé. D'ailleurs, il s'était embrouillé à la fin de sa vie avec Basquiat, qui considérait comme avoir un peu trahi la cause noire et s'être adressé un peu trop aux blancs. Donc c'est finalement un artiste, Basquiat, qui est fan de graffiti, très frustré de ne pas savoir en faire et qui a sans cesse fait des hommages à ses amis, comme on peut le voir à la Fondation Vuitton avec le portrait des Hollywood Africans, où on voit son portrait avec son ami Toxic, grand graffeur de l'époque, et Ramelzi. Et c'est une peinture qu'il a fait deux fois, à deux reprises. Donc il y en a une à la Fondation Vuitton.
Le graffiti ou le street art à cette époque-là, donc on sait que le street art est de toute éternité, que Brassailles, etc. À New York, dans les 70, on commence à voir partout le street art. Donc il fallait trouver une forme beaucoup plus laconique. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre une écriture d'artiste conceptuel et l'artiste et les écritures de Samo, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Nurizani?
Ah oui, c'est tout à fait ça.
Ça pourrait être Laurence Wiener.
Et ça peut être aussi un poète. Et en effet, ça peut être conceptuel. Si vous voulez, il était très proche de Burroughs et de Kerouac.
Un peu plus tard, peut-être,
oui,
non
oui,
un peu plus tard.
Hein, bien sûr, j'anticipe.
Oui, vous anticipez un petit peu. Fabrice Bousteau, vous ne trouvez pas que cette façon d'écrire des slogans, là je regardais celui-ci par exemple, un million, parce qu'un million de dollars ne peut pas acheter une âme, ou bien semer intentionnellement la confusion, est-ce que ce n'est pas des slogans dada? Est-ce qu'il n'y a pas un côté très néo-dada dans le travail du début de Basquiat?
Si, je pense que vous avez raison, mais je pense que globalement, ce qui fonde l'esthétique de Basquiat, c'est d'une certaine manière, je pense que c'est plutôt un appropriationnisme.
Appropriationniste, oui.
Pour quelle raison? C'est qu'en fait, on retrouve chez Basquiat énormément de choses qui vont de l'art le plus conceptuel aux pratiques, à l'histoire, à l'histoire de l'art. Oui, mais dès le début, parce qu'à la limite, cette relation entre la musique, tout de suite, très tôt, où il commence, il pense qu'il va être musicien, et où il est poète également, c'est que cette appropriation à la fois des mots de l'ensemble de la culture occidentale et de la culture non occidentale, je pense que c'est ça qui le définit. C'est-à-dire que il pique des choses partout.
C'est du sampling.
C'est du sampling.
Mais moi, je trouve que vous avez raison et que Michel a tort, si vous me permettez de jouer l'arbitre, parce que... Pardon, Michel.
Non, je ne permets pas du tout.
je pense que c'est les premières cartes postales qu'il fait et qu'il distribue avant, en 79, 78...
Qui
vont à Warhol et à Gelsaler.
À Gelsaler, oui.
C'est des images collées et c'est effectivement déjà du sampling. On est avant qu'il fasse de la peinture,
oui,
si on peut dire.
Oui, mais moi, je suis d'accord avec le sampling, hein.
Tout va bien. Je voudrais que...
Et d'ailleurs, même quand on dit sampling, je trouve...
Je pensais le dire à la fin de l'émission.
L'émission est imprévisible, par nature.
Voilà.
C'est l'endroit d'où surgit l'inattendu, cette émission.
Et je trouve que quand on dit sampling, justement, si on fait une référence à la musique, puisqu'on associe très souvent Basquiat avec le hip-hop, alors qu'il y a énormément d'autres influences, mais s'il avait produit de la musique, il aurait produit de la musique électro. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est des mix permanents. Et donc, il crée des nouveaux sons. J'ai lu un texte, je ne me souviens plus, qui un jour a dit « Il faut lire à haute voix toutes les inscriptions sur les tableaux de Basquiat. »
C'est O'Brien qui a dit ça.
Voilà. Et aussitôt, on entendrait la musique de la peinture musicale. C'est exactement ça.
Alors ça va venir, c'est très important, vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais tous les tableaux de Basquiat, il y a de l'écriture, et cette écriture, pour certains, c'est du dessin, pour d'autres, c'est du son, pour certains, c'est de la musique, pour d'autres, c'est une façon nouvelle de faire de la poésie. Je voudrais peut-être qu'on revienne au début, et pour y revenir, c'est-à-dire le climat dans lequel Basquiat quitte sa famille à 16 ans et demi à peu près, et il se retrouve en train de zoner, en fait il zone, et il se retrouve aussi dans des catégories, des tribus. Et là, peut-être que quelque chose lui revient à l'esprit, quelque chose que lui a fait écouter sa mère. Écoutons-le.
When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you... Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in.
In, out. Let's get cracking.
Where are you gonna find Bernardo?
At the dance tonight at the gym.
But the gym's neutral territory.
Ooh, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge him.
Great, Daddy-o.
So everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony and me at 10. And walk tall.
We always walk tall.
We're jets.
The greatest.
When you're a jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with a heavyweight crown. When you're a jet, you're the swinginest thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clicking. The sharks are steer clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way. Someone don't feel so well. Here come the jets. Little world, step aside. Better go underground. Better run. Better hide. We're drawing the line. So keep your noses hidden. We're hanging a sign. Says visitors forbidden. And we ain't kidding. Here come the jets. Yeah, and we're gonna be every last morning gang on the...
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Nous parlons de Jean-Michel Basquiat et nous entendions à l'instant un des morceaux préférés de Jean-Michel Basquiat quand il était jeune, un morceau que lui a fait aimer sa mère, un morceau qui évoque la lutte entre les gangs, une sorte de façon de se colter avec une réalité polémique comme ça, dans un environnement complexe. C'est le monde des tribus du New York des années 70, de Brooklyn plus particulièrement, et ça l'a marqué, Michel Nuridzani, non ?
Oui, ça l'a marqué. Il était, quand il va à Manhattan, quand il traverse le pont, il est sans domicile fixe. Donc il couche chez les uns, chez les autres.
Chez les unes et les autres aussi.
Les uns et les autres. Il était bisexuel. Hein.
Oui.
Bon. Et il était sans domicile fixe et il se baladait vêtu d'un lourd manteau en laine, même l'été. Il avait l'air d'un clochard et en même temps d'un mannequin.
Alors, il s'était fait renvoyer de sa dernière école, qui était extrêmement, pourtant extrêmement dans le sens de nouvel enseignement tolérant, etc.
Ah oui,
il avait fait une fresque là-bas et il part à la dérive. C'est la rupture avec son père. Sa mère est malade.
Mais j'ai enjambé tout ce que vous venez de dire.
Mais vous avez bien fait, Et le voilà dans un univers réel où c'est dur.
C'est dur, oui, mais si vous voulez, en effet, il n'a pas de galerie, il n'a rien. Et il y a une chose qui est très importante.
Mais est-ce qu'il sait qu'il est artiste ? Il veut juste devenir célèbre, il ne sait pas qu'il est artiste.
Il veut devenir célèbre, mais si vous voulez, il est doué pour la musique, il est doué pour la poésie, il est doué pour le dessin, tout ça, il le sait. Donc, si vous voulez, ce qui est très important, ce qui est essentiel, à mon avis, c'est le Bud Club, qui s'ouvre en 78. C'est un club où on vient danser, où il y a tout le monde est là, notamment Madonna, avec qui elle aura une petite histoire d'amour. Tout le monde passe là. Et donc, c'est là qu'il joue de la musique. C'est là que quelqu'un comprend qu'il est poète. Et sa musique, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a dit, est influencée à la fois par le hip-hop et par John Cage. Donc, si vous voulez, il y a des tas de choses qui se passent. Et là, il rencontre quelqu'un qui a été essentiel aussi, c'est Diego Cortez.
Alors, on va y venir parce que Diego Cortez est à l'origine de sa carrière d'artiste. Mais auparavant, il y a effectivement la musique. Vous en parliez, Fabrice Bousteau. Sa musique, elle est bruitiste, sa première musique.
Oui.
C'est prendre le monde réel, le coller, c'est entre John Cage et Russolo ou Varese.
Exactement, et c'est et elle est aussi sauvage, c'est-à-dire que elle exprime aussi
elle est libre, elle est
une gigantesque liberté. Le parallèle va vous sembler peut-être étonnant, mais j'ai été ébloui par l'exposition Picasso au musée d'Orsay, et j'ai fait un parallèle avec Basquiat parce que quand on voit comment de 20 ans à 25 ans la fulgurance de la créativité tout azimut, contrairement à ce qu'on pense, parce que les périodes se mélangent de Picasso, et la possibilité pour Picasso de tout faire, je trouve qu'il y a un parallèle avec Basquiat. C'est-à-dire que je suis sorti de cette exposition en me disant que je commençais à avoir des craintes et des problèmes sur l'art contemporain, parce que je me dis, mais quels sont les artistes que je connais qui ont entre 20 et 25 ans, qui peuvent témoigner de cette créativité et de cette production considérable d'œuvres comme Picasso ou comme Basquiat? C'est-à-dire que quand on parle de la musique de Basquiat, quand on parle des poèmes, c'est que c'est aussi un travail phénoménal, permanent, sauvage, avec une gigantesque liberté. Et effectivement, ça se rencontre très peu dans l'histoire d'un siècle.
Alors il a vu au MoMA, il a été emmené au MoMA par sa classe, je crois, et il a vu Guernica, ça a dû être important. Vous retrouvez ce côté noir et blanc dans ses premiers travaux, Hugo Vitrani ?
On voit qu'il est de cette génération de l'urgence. Les années 70 et fin 70 à New York, c'est l'urgence. C'est des gens qui sont dans la rue, c'est les ravages de l'héroïne.
C'est vrai que c'est
le combat raciste. Et toute la génération issue du hip-hop, des cultures de rue à cette époque, est une génération qui est dans l'urgence. D'où aussi l'outil de la bombe de peinture. On peut pas faire plus direct.
Donc, parce qu'il commence avec ce feutre qui est, je sais pas comment ça s'appelle, ce feutre pour
un marqueur.
Oui. Un marqueur qui est le typique l'outil des graffeurs du début des années 70. Oui, et la bombe arrive.
Et la bombe arrive.
Et alors, c'est quoi
cette
différence?
Là, ces poèmes, c'est l'urgence, c'est que c'est instantané, c'est condensé, ça va sur tous les supports. On peut peindre sur une bâche, on peut peindre sur du plastique, on peut peindre sur des murs, on peut peindre sur tout. Donc Basquiat fait vraiment partie de cette génération-là qui est marquée par une urgence, par un cri. Donc sa peinture reflète ça, oui.
Je voudrais vous lire un passage, c'est Fab Five Freddy. Vous connaissez ça, Fab Five Freddy, Hugo Vitrani ?
Fab Five Freddy, c'était l'un des plus grands graffeurs de New York, l'un des plus branchés. C'était l'amant de Patty Astor qui avait la Fun Gallery. Donc c'était un des grands dandys de la nuit de l'époque et un des grands graffeurs.
Alors il parle de la pertinence du style de Basquiat et il dit « La manière dont il tenait le crayon faisait parfois songer à celle d'un paralytique. Il ne le tenait pas de façon conventionnelle, il le plaçait au niveau de l'annulaire et avait vraiment l'air bizarre, de sorte que lorsqu'il dessinait, le crayon glissait presque de ses doigts. Il laissait faire le crayon, le rattrapait au vol, puis le laissait dériver. C'était incroyable toute cette danse qu'il menait avec le crayon. » Il y a un aspect Hugo Vitrani est performatif comme ça dans sa façon de dessiner. Il se jette sur la toile, il se jette sur le mur, les toiles sont des murs. Il boxe.
Oui, il y a un vrai rapport corporel d'abord avec la ville. Donc c'est sortir la nuit ou le jour pour peindre, c'est dangereux. C'est une expérience de transe aussi. Et c'est une expérience corporelle. On prend des risques et on peint dans une activité qui est étrange. Il est un peintre boxeur, c'est quelqu'un qui tape la toile, c'est quelqu'un qui tape l'œil, c'est quelqu'un qui tape les mots. C'est vraiment un artiste qui frappe son spectateur, parce qu'il avait quelque chose à dire, c'était « je suis noir et je vais marquer l'histoire de l'art ».
Quelqu'un qui est noir et qui marque l'histoire, c'est Cassius Clay, par exemple. Qu'est-ce que vous avez vu toutes ces allusions à Cassius Clay et Joe Louis dans sa peinture, Fabrice Bousteau ?
Oui, je l'ai vu. Pour continuer sur le crayon, moi, ce qui me marque, c'est qu'en quelque sorte, c'est l'intelligence de la main. C'est-à-dire que qui est un prix qui est donné par la Fondation Bettencourt. Mais c'est exactement ça.
Je les aime bien, mais je ne les attendais pas dans cette conversation.
Parce que pour moi, c'est vraiment l'expression de l'intelligence de la main. Il y a un côté extrêmement sauvage et il y a un côté de l'immédiateté de la pensée qui passe par la main. Et effectivement, cette manière de tenir le crayon qui semble presque une manière d'un handicapé et qui semble très sauvage et qui est une danse qui semble être animé uniquement par le cerveau, c'est l'expression même de l'intelligence de la main, et qu'on retrouve chez quelques grands artistes de l'histoire de l'art, et qu'on retrouve également chez Schiele.
Dites-moi, Michel Nuridzani, là, il y a une petite pique à votre égard, mais c'est pas ça dont je voulais que vous nous parliez.
Ah, mais moi, j'aime bien les piques parce que je peux rendre
Oui, oui, vous êtes un petit peu dans ce combat. C'est Forman, Cassius Clay, Frazier. Je me demande pourquoi d'ailleurs il choisit le nom de Cassius Clay et pas celui de Mohamed Ali, puisqu'à son époque c'était Mohamed Ali et pas Cassius Clay.
Oui, oui, c'est étrange. Mais ce qui est très intéressant dans Frazier et Mohamed Ali a choisi d'être noir et il a rendu Frazier blanc, ce qui est un truc absolument incroyable.
Oui, c'était voilà. Étrange, oui, c'est vrai.
Moi, ce que j'aimerais dire, une petite chose...
Avant même que je vous pose une question.
Oui.
Bon, allez-y.
Alors, c'est qu'à 19 ans, en 79, il tourne l'histoire de sa vie. C'est quand même insensé, il a pratiquement rien fait. Et il y a un film qui s'appelle Downtown 81, où... Il est une star et on raconte sa vie. Et il était une star, il était connu presque avant d'avoir rien fait. Un petit peu comme Juliette Gréco à Saint-Germain-des-Prés. Et elle s'est mise à chanter parce qu'il fallait bien qu'elle fasse quelque chose pour justifier sa célébrité.
Mais il y avait quand même un signe qui envahissait New York.
C'était
toujours. Semo était très célèbre. Et lorsqu'il est.
Mais on ne savait pas qui c'était.
Et lorsqu'au Mud Club, il s'est dévoilé. N'est-ce pas ?
C'est dévoilé après, oui. Il était très célèbre en étant inconnu.
Comment ça s'est passé ? Alors, il est au Mud Club, il est comme une figure de la nuit, on ne sait pas qui c'est, ce qu'il fait, mais il est séduisant, beau, auréolé de charme et de grâce.
Oui, c'est dans une émission qu'a faite O'Brien, qui était quelqu'un qui travaillait à Interview, le journal de Warhol. Et un jour, il l'interviewe et c'est là qu'il lui dit que c'est lui qui est ses mots.
Donc, voilà. Ça commence.
Oui, oui.
Dites-moi, Michel, donc, ce que je voulais vous demander, c'est... Il se balade maintenant, il essaye d'être connu, il voit que dans un resto en face du MoMA, Warhol, il dit « je vais lui vendre mes cartes postales », qui sont des petites cartes postales, c'est comme un fanzine, fait main, comme ça, photocopie, un peu de coloriage,
man-made.
Et il essayait d'avoir 2 € par carte postale. Et oui. Il va vendre à Warhol, et qu'est-ce qui se passe ?
Warhol lui achète comme c'était pas cher, il lui achète. Il se passe rien.
Entre... Et Getzhaler, lui,
c'est Getzhaler, lui, qui plus tard lui posera des questions.
Voilà, mais le prend de haut pour l'instant.
Un peu.
Et puis alors, comment est-ce qu'on
il prenait de haut pas mal de gens, Getzhaler.
Bon, c'était qui Getzhaler,
dites-moi. C'était le directeur d'un très grand musée, lequel Le Met. Bon, Getzhaler, c'était quelqu'un de très important. Il était directeur du Met, du Metropolitan Museum, et c'était quelqu'un de très important parce qu'il s'intéressait aussi à l'art contemporain.
C'était un peu le pape. Et alors là, on commence à voir Basquiat, et il y a une exposition faite par cette personne dont vous parliez tout à l'heure, voilà. Et une exposition qui va avoir lieu dans un endroit mythique et qui va devenir mythique, qui est Pièce One.
Alors, il y en a une autre avant qui est au moins aussi importante, c'est celle de Times Square Show.
Okay.
C'était dans le quartier un peu borderline, avec tous les salons de massage et tout ça. Et là, il est exposé dans un escalier avec Diego Cortez. Et après, à PS1, il y a Elena Hice qui a invité...
Elena Hice était la directrice de PS1.
La directrice de PS1, qui est mythique.
Voilà,
mythique.
C'est une école...
Quelqu'un de formidable.
C'est une école extraordinaire. Enfin, c'est une école... C'est dans une ancienne école, toute pourrie à l'époque, maintenant bien développée, et où on pouvait exposer un petit peu en liberté. On va raconter toutes ces histoires, mais avant de replonger dans l'aventure, écoutons... puisque nous allons le quitter musicien, maintenant c'est fini la musique de notre ami, écoutons la musique de Basquiat dans ce groupe qui s'appelait Grey.
It's much easier to get hijacked marbles from the trustees. Scott, Europe soft, black, white, gray. These last few months, cancel checks, the police arrive.
You're in prison?
You won't be so arrogant when the police arrive.
Wait, what are you talking about?
It's gone soft.
What?
It's gone soft.
What's gone soft? I don't know what you're talking about.
Plastic bag.
What plastic bag?
The harassment, you know, the stink bombs and stuff.
Stink bombs? What stink bombs? talking? Really, I don't understand you, but I don't.
We've gone solid. Black went great. These last few months, cancel checks, you know.
Yeah, where are you at?
Now, the final formula of my liquid cigarettes is much easier to hijack Marlboro's and the trustees.
What do you want? What do you want?
Because I want to blow my brains out.
Are you in a prison?
No.
Where are you at?
I'm nowhere, man. That's final form? You know, the trustees.
What trustees are you talking about? No, what, really, what trustees? I don't understand.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'art et la matière. Et nous parlons de Jean-Michel Basquiat avec Michel Durinzani qui a fait cette très belle biographie de Basquiat chez Flammarion, avec Hugo Vitrani, un spécialiste du street art, et évidemment avec le directeur des rédactions de Beaux-Arts Magazine, notre partenaire. Et nous parlons de Basquiat à l'occasion de cette exposition Louis Vuitton, et vous venez d'entendre un morceau de musique composé par Basquiat et Holman, une sorte de musique, comment est-ce qu'on appelle ça, la musique noise, Hugo Vitrani?
C'est ce qu'on dit, oui, apparemment.
Et d'où ça vient ce nom, Ray?
Donc, Gray. Nom du groupe vient probablement de ce livre, Grey's Anatomy, qui est devenu un livre de référence dans la vie de Basquiat, qui est un livre que sa mère lui a offert après un accident de voiture. Une voiture lui a foncé dessus. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, il a eu un organe sectionné, la rate, et il est devenu passionné de ce livre, et on voit bien après dans tout son travail sa manière de disséquer les lettres et les personnages et les corps, de montrer les squelettes, la chair, et rester tout le temps dans son travail jusqu'à la fin de sa vie.
Vous avez l'impression que cette musique, c'est quasiment un écorché de la musique?
Oui, je pense que tout est cicatrice chez lui.
Ah, c'est pas mal ça. Et, Fabrice Bousteau, vous avez vu l'entrée de cette exposition, les premières toiles que l'on voit, les grands crânes, etc. Là, nous sommes en 81. Je crois que les premiers tableaux qui sont dans l'exposition sont de 81. C'est déjà frappant. Le personnage est là, le style est là.
Ce qui est frappant d'ailleurs, le tableau dont parlait Hugo Vitrani, il est au début de l'exposition, crash au départ pour rappeler l'importance que cet accident ait lieu. Et après, effectivement, on voit tout de suite...
Il y a des voitures d'ailleurs tout de suite qui apparaissent, des accidents de voitures qui apparaissent.
Tout de suite, dès le départ, c'est une œuvre qui rentre. On rentre dans l'enfance, dans l'élément qui a marqué Basquiat. Moi, ce qui me marque dans l'exposition, quand on arrive tout de suite avec ces têtes, ces vanités qui sont d'une survitalité, entre guillemets, c'est la complexité. C'est-à-dire exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est le parallèle de ce son, c'est la complexité. Basquiat, c'est tout, sauf un artiste qui peut être une image choc immédiate dans sa séduction, comme Warhol, par exemple. Faire une couverture, par exemple, Basquiat, pour un magazine vendu largement au grand public en kiosque, c'est très 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 risqué, parce que c'est une image qui se décrypte avec énormément d'attention. Quand on parlait même des mots de Basquiat, les mots de Basquiat sont très souvent biffés. Et pourquoi Basquiat biffait ces mots? C'était pas pour les effacer, c'est le contraire d'un Tambly. D'ailleurs, il y a des rapports qu'on peut faire étroits entre Tambly et Basquiat. Et d'ailleurs, Basquiat adorait l'œuvre de Tambly. Ils se sont rencontrés d'ailleurs. Mais Basquiat, s'il le biffait les mots, c'était pour mieux, entre guillemets, les mettre en valeur, les surligner. Donc, on est dans une complexité de langage, de couleurs, de crayonnement, de rapports. Rapprochement justement de mix, d'éléments de culture qui n'ont strictement rien à voir a priori. Il peut mixer l'Antiquité avec l'Afrique noire.
Vous avez raison, Fabrice Bousteau. D'abord sur le biffé, là je me souviens d'une citation, je biffe les mots pour que vous les voyez davantage. Le fait qu'ils sont obscurcis vous donne envie de les lire. Donc ça, c'est très juste. Mais ce qui est juste aussi, je crois, dans votre description, c'est que ce sont des montages, en fait, ces tableaux. Et donc, il y a un aspect rébus. Il faut les décoder réellement, non?
Oui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment les décoder. C'est d'ailleurs toute la difficulté d'une exposition comme celle-ci, puisque il y a énormément d'œuvres, 120 œuvres. Il faudrait y passer. Moi, j'y ai passé à peine 2 heures. C'est absolument impossible de regarder cette exposition en 2 heures. Il faudrait vraiment passer 6-7 heures et pouvoir s'asseoir et regarder tranquillement, non pas contempler, mais déchiffrer.
Michel Nurizani, dans votre livre, vous déchiffrez quelques tableaux. Vous pouvez nous donner des exemples de clés comme ça de lecture?
Non.
Comment non?
Je ne peux pas donner des exemples de lecture, mais il y a... Bon, tout le monde le lit d'une façon différente. Par exemple, il y a des S... Et on peut le lire comme la signe du dollar. Mais Suzanne Malouk, qui a été une de ses petites amies, dit chaque
une
fois...
Une de ses grandes petites amies, hein, elle a été quand même assez déterminante dans sa vie.
C'est ouais. Elle qui le dit, qu'elle a été une de ses grandes petites amies. Bon, ça a été un petit peu important, mais celle qui a été sa grande amie, c'est Good, à la fin de sa vie, hein, avec qui il a vécu assez longtemps. Mais donc, Suzanne Malouk disait, quand on voit S, c'est Suzanne. Bon, toutes ces choses-là sont à interpréter.
Mais par contre, vous pouvez interpréter les signes, la couronne, par exemple. Ça, c'est un signe très important. Hugo Littrani, la couronne.
C'est exactement ce qu'il a dit. C'est les graffeurs, les gens qui faisaient des graffitis, mettaient très souvent des couronnes. Donc, tout ça, ça peut être lu à des... Il se considérait comme un roi. Et d'ailleurs, quand on le voyait, on pensait à lui comme un roi. Il était très calme, il était là. Quand il était là, on ne voyait que lui. Il dégageait quelque chose.
Moi, je l'ai vu en 84 à la Fruit Market Gallery, donc à Édimbourg, arriver. C'était un véritable cortège. C'était incroyable. C'était un empereur avec son immense manteau. Il avait les cheveux courts ce jour-là. Et je me suis dit, c'était vraiment un personnage royal. Et il le sentait. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il disait à Warhol, je crois, quand on lui vient d'interroger sur ce qu'il voulait, il dit, moi, la royauté, l'héroïsme.
Oui, c'est ça. Hein,
et les rues. Et les rues, c'est-à-dire qu'il y avait aussi... le roi des pauvres aussi.
Il l'a dit à Gelzelaar.
Ah bon, ça, très bien. Okay.
C'est comme... Non,
comme j'ai lu dans votre livre, vous le savez mieux que moi.
Hein. C'est pas impossible. Je l'ai relu récemment.
Le roi des pauvres, mais qui vivait très richement en prenant Concorde pour un rien pour aller à Paris.
Quand on est pauvre, on a de la dignité, monsieur. Non, mais je pense que la dignité était extrêmement importante pour lui, me semble-t-il. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il voulait prendre dans la cave de Warhol les meilleures bouteilles. Donc c'était toujours ça, il mérite le meilleur.
Il mérite le meilleur.
Mais il peut aller dormir dans un bouge ce soir, ça n'a aucun problème.
Oui, voilà. Et je voulais revenir sur un point, sur le décryptage des œuvres. C'est qu'effectivement, chaque œuvre pourrait faire l'objet d'un commentaire d'œuvre énorme, avec des interprétations très difficiles, parce que... Excusez-moi, si je prends par exemple une œuvre comme Gringo Pilote, où il y a des allusions très nettes à Paul Tibbets. Paul Tibbets, son nom est marqué, qui est le pilote qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima. Après, on a Anola Gay. Anola Gay, c'est une déformation du nom de la mère de Tibbets, où il y avait de marqué sur le bombardier Enola Gay. Donc, il y a à la fois des références explicite, et à la fois le propre mix, j'irais dire, de dyslexique, quasiment mental et neuronal, de Basquiat, qui crée un autre langage, où là, il faut vraiment être très proche de lui, ou qu'il ait parlé de certaines œuvres pour qu'on puisse réussir à comprendre aussi les mix lui-même de mots qu'il fait et qui là n'ont pas ne peuvent pas avoir une lecture simplement par une connaissance d'une histoire.
Oui, parce qu'il y a dans tel tableau, vous avez tout à fait raison, les exemples que vous donnez sur cette tragédie comme ça de largage de la bombe atomique, on sent très bien son parti pris. Dans d'autres, il y aura des policiers avec des mots qu'ils ont très particuliers, et puis parfois, vous voyez un prophète, Samson, par exemple, représenté avec son nom et les chaînes. Et ailleurs, vous voyez un autre prophète, vous dites c'est Aaron qui est-ce? Et c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est ça, Aaron, Michel Nurizani?
C'est Moïse et Aaron.
Mais non, c'est le joueur de baseball.
Oui.
Ben voilà ce que je voulais que vous me disiez.
Il faut que vous me rappeliez mon livre. Oui, oui, c'est un célèbre. Et ça, c'était un sujet sur lequel il s'entendait bien avec son frère, avec son père. Vous voyez, vous m'avez troublé, je confonds tout.
Donc, avec son père, quel sujet il...
Bah, sur le baseball. Ils écoutaient les matchs de baseball à la radio ensemble.
C'était une grande star, Aaron?
Oui, un énorme joueur. Bon, j'y connais rien au golf, mais enfin, il est.
Au baseball.
Décidément, je bafouille.
Et dites-moi, Hugo Vitrani, donc, à un moment donné, cette couronne dans un tableau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle est faite avec des clous. Il y a des clous plantés comme ça au-dessus d'un tableau et ça devient comme un fétiche africain. Vous avez remarqué ça ?
Oui, bien sûr, c'est très important chez lui. On pense forcément à Rauschenberg et ses Combine Paintings qui l'ont beaucoup influencé. On pense au fétiche de l'art africain, on pense à la magie noire, on pense au vaudou, on pense aussi à la crucifixion. Donc il y avait tout ça chez lui, du déchet jusqu'au sacré.
En fait, vous avez raison, donc, il y a l'aspect chrétien qui apparaît très souvent. Hein. Vaudou, je sais que Michel n'est pas d'accord. Mais en fait, c'est souvent marqué, et bien le dieu Échou, par exemple, qui est dans l'exposition. Et donc, ça fait partie de cette culture dont parlait Fabrice tout à l'heure. C'est une culture globale, quoi.
Oui, globale, et même, j'irais presque dire par provocation, que c'est peut-être le premier artiste qui annonce l'intelligence artificielle artistique. C'est-à-dire que c'est indéniablement un artiste qui préfigure la notion des réseaux, de la culture numérique, là, d'une culture mondialisée déjà. C'est quand on regarde l'époque, c'est le seul qui a cette culture mondialisée, qui met aussi le haut et le bas de la culture ensemble, qui mélange toutes les périodes, qui s'approprie l'ensemble des choses, ce que je disais tout à l'heure, qui fait des collages, des répétitions aussi. Et par moment donné, arrivent ces mots qui n'ont aucune signification, ne veulent rien dire et sont indécryptables, comme s'ils avaient été cryptés par une intelligence artificielle. On pourrait presque dire que Basquiat, c'est le premier artiste numérique.
Ah, intéressant, mais alors, oui.
Et c'est des mots qui sont en guerre, et c'est là qu'on retrouve la grande influence de Ramelzi sur son travail, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il le représente, il met Ramelzi au-dessus de lui. C'est que Ramelzi était en guerre avec le langage et les mots. Et ça s'est vraiment retrouvé dans le travail de Basquiat, d'une autre manière, mais ces mots sont vraiment en guerre.
Alors c'est assez drôle parce qu'il y a des listes de mots aussi. C'est assez curieux ces inventaires, Hugo Vitrani. Il y a les tableaux, ce ne sont que des listes de mots. Vous avez remarqué ?
Oui, il est dans une répétition. On peut penser à Beuys, à Twombly. On peut parler même de cette idée de la belle main et du coup de la laide main. Et c'est ça le seul rapport que moi je vois avec Twombly.
Vous pensez au tableau noir sur lequel Beuys écrit qui devient des œuvres.
Oui, oui. Et donc on est dans cette main qui est finalement très érudite dans sa fausse naïveté, puisque l'erreur de beaucoup de gens, c'est de croire que cette main est naïve. Quand on voit les vidéos de Basquiat en train de peindre, il peint en prenant du bout des doigts le bout du manche et il danse avec le pinceau et il sait exactement ce qu'il fait.
Il y a une anecdote, je crois, qui est assez célèbre, où il est dans un avion et il est en train de lire un livre d'astronomie et il a un petit carnet et il écrit une liste de noms. Et une femme à côté lui demande ce qu'il est en train de faire et il dit « je suis en train de dessiner ».
C'est ça.
Elle lui demande s'il étudie.
Oui, voilà. Et non, je dessine. Alors qu'il écrit.
Voilà, il écrit.
Michel Nurizani.
Oui, oui. Bon, si vous voulez, là, on a parlé de Twombly. C'est à l'époque,
c'est
on
qui,
était
Twombly,
désarçonné.
Vous parlez de c'est qui Twombly?
Pardon?
Qui est Twombly?
Oh, bah, c'est un des grands artistes américains, très influencé par l'Italie, par le Rome, et qui écrivait des mots aussi sur des fonds assez brouillés comme ça.
Mais qui effaçait, lui. La différence entre Twombly, c'est que Twombly efface les mots, il cherche l'effacement, et Basquiat cherche la superposition, l'opposition, et de créer de la matière, de cette surmatière.
Mais ils se sont connus en 82, hein, c'est dingue quand même, parce que cette différence de génération, un art extraordinairement savant et un autre art qui fait semblant de ne pas l'être.
Oui, c'est ça, qui fait semblant de ne pas l'être, c'est important ça.
Mais la superposition de Basquiat, c'est un effacement aussi, puisque c'est l'effacement de la rue, c'est la superposition des graffitis dans la rue, des pouvoirs publics qui les repeignent, qui créent ce palimpseste. Donc il est toujours aussi dans cet effacement de rue.
Hugo Vitrani, dans la façon, quelque chose quand même qui est très frappant quand on est dans l'exposition, c'est ce sont des toiles balancées sur des palettes disjointes. C'est la rue qui rentre dans le musée, là, non ?
Oui, lui, ça a été son combat. C'était vraiment, c'est quelqu'un qui vient de la rue, de la marginalité, et du coup, qu'il a défendu et qui s'en est sorti. Et il avait ce combat-là. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle il a jamais défendu officiellement le graffiti. Et l'erreur, c'est de croire qu'il ne le défendait pas. C'est juste qu'il ne voulait pas en parler avec des blancs. Il venait du milieu du graffiti, il avait un autre combat à défendre, c'est ce qu'il a souvent dit. Son combat, c'était de se défendre en tant que grand peintre noir dans l'histoire de l'art. Il ne voulait pas mener le combat pour le graffiti. Ce combat-là a été fait par Kissaring. C'est la raison pour laquelle il a laissé ce combat-là à Kissaring, puisque Kissaring était blanc, homosexuel, et n'avait pas ces choses-là à défendre que lui voulait défendre. Sa cause, c'était d'être un peintre noir.
Vous êtes d'accord avec ça, Michel Nourrizani ?
Oui, tout à fait. Je le vois pas comme issu du graffiti. Je le vois issu de la musique et de la poésie.
Alors, musique, il y a un personnage qu'il adorait. Vous me direz pourquoi. On va l'écouter. Et ensuite, après cela, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, justement, de ce groupe de grands artistes qui sont autour de lui. Clemente, Twombly, vous en parlez, mais Warhol, bien entendu, et d'autres.
About the bird, remember everything you did and all the things you heard. Was on the just pleasure, get you down the side. Think of how you had to live and then the way you died. Life was on time, cause now should have been this time. Now was the time. I never thought it'd be so awfully close to me until I heard the message and it up and set me free. It made me wanna linger, wanna hang around for better understanding of these different kinds of sounds. Back in 42, Bird came to New York and he blew my bud. Now there was a tune that moved me, and there was a tune that really grooved me. Oh yes siree, when I heard the bird, he was certainly making history down on 52nd Street. My sister was scratching the ears and going on. You should have dug him. There wasn't hardly out your nose was fast, no time to be swinging. Oh yes siree, I'm sure the feet were really steadily patting away when he started to play Charlie Parker. A whole lot of soul, Charlie Parker. Music wasn't like Kickstarter, I think a masterpiece, then it up right and play them. His broadcast sitting in a sweater with a pity, never made lots of dough before it came time to go. But he left a lot of swing in the air. Won't you listen, play a Charlie boy. Go ahead and fill the people's hearts with joy.
We love to listen, oh yes, we love to listen to you, Charlie, did we do? Although we know you're gone, all the memories that you left behind shall linger on. Blow, go ahead, blow, blow, yes, blow your blues away. We listen to everything you ever played. That was where your specialty, but on the blues you got so close to me. Hey, you were born to be a master of your horn. Go, Philly Joe Jones.
Vous êtes sur France Culture et nous écoutions Charlie Parker. C'est une émission L'art et la matière consacrée au grand artiste américain Jean-Michel Basquiat, dont une exposition a lieu en ce moment à la Fondation Louis Vuitton. Je suis avec mes amis Fabrice Bousteau, rédacteur en chef, directeur de des publications Beaux-Arts Magazine et Le Quotidien de l'Art, Michel Nurizani, historien, écrivain et qui a fait cette extraordinaire biographie de Jean-Michel Basquiat chez Flammarion qui est sortie il y a 3 ans et qui est d'une actualité et d'une vivacité formidable, et évidemment le curateur du Palais de Tokyo, Hugo Vitrani. Et nous écoutions Charlie Parker. Nous écoutions Charlie Parker. Pourquoi Michel Nurizani? C'est moi qui l'ai choisi, hein. Vous pourriez me demander à moi, mais...
Non, mais bon, si vous voulez, c'est très important, Charlie Parker, parce que, bon, c'était une des rares choses qui le reliait encore à son père avec le baseball, quoi. Ils écoutaient Charlie Parker, le père de Basquiat se considérait qu'il ressemblait physiquement à Charlie Parker. Et donc, Basquiat écoutait beaucoup de cette musique de jazz, en plus de ce qu'écoutaient les gens de son âge, c'est-à-dire le hip-hop et des choses comme ça. Bon, ça fait partie aussi de sa culture.
Charlie Parker est aussi le grand héros noir, en fait, de l'invention de la musique bebop.
Oui, bien sûr, hein, bien sûr.
Oui, d'ailleurs, Basquiat en fait un héros, et il y a une œuvre extraordinaire à l'exposition qui s'appelle Now the Time, qui
est le titre d'une chanson de Parker.
Voilà, qui est le titre d'une chanson de Parker de 1945. Donc, ce qui est quand même intéressant aussi de penser, c'est comment un jeune homme s'intéresse à une musique qui date autant. Et donc, l'œuvre en question, elle est à la fois d'une simplicité, d'une
Décrivez-la,
force.
Décrivez-la, Fabrice, parce que elle est tellement simple, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle nous fascine.
Il faut imaginer une sorte de gigantesque vinyle, entre guillemets, dans une matière étrange, qui est peint en noir et dont Basquiat rappelle en quelque sorte les sillons au crayon blanc. Mais ces sillons au crayon blanc qui font penser à un vinyle font également penser à une tête en mouvement. C'est ça qui est très étonnant pour
maintenant
moi.
Maintenant que vous le décrivez, je vois cette tête, parce que le cercle du sillon n'est pas parfaitement rond, et effectivement il y a un léger rétrécissement vers le menton, et on imagine une tête, comme on imaginerait aussi une cible peut-être, au sens de Jasper Johns.
Peut-être une cible, mais si ça avait été une cible, le rond serait parfait. Et là, en l'occurrence, pour moi, j'y vois une tête, en mouvement, d'autant que c'est signé, et ça c'est fabuleux, parce que c'est une signature qui s'inscrit quand même dans la lignée à la fois du graffiti, parce qu'il y a aussi un copyright, et à la fois dans ce rapport à la musique, c'est signé, alors j'ai mal le prononcer en anglais, donc c'est signé PR. En français, en tout cas, ça s'écrit PRKR, donc qui est une manière phonétique de signaler Charlie Parker.
Vous avez aimé ça, Fabrice Bousteau aussi ?
On peut aussi y voir une ligne de cocaïne, puisque la drogue dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent était quand même permanente dans la vie de Basquiat. Et on peut aussi y voir une ligne de cocaïne.
Oui.
Donc, à travers cette question, il y a aussi une admiration. Il y a aussi une admiration pour un personnage très important, qui est Burroughs, qui est avec ce roman tellement important qui.
Le Fastnet.
Voilà, et qui montre l'errance d'un héroïnomane. Il y a une amitié entre eux. C'est assez étonnant la relation avec, au fond, ces immenses poètes. Du beat. Et est-ce que on pourrait pas dire que Basquiat est le dernier grand poète beat?
Oui, moi je pense.
Vous qui avez connu tous ces grands poètes.
J'ai connu Burroughs plusieurs fois, je l'ai rencontré plusieurs fois. Oui, c'était quelqu'un d'assez froid. Hein.
Oui,
ami avec lui, c'était pas facile. Et donc, en effet, on voit des photos de Jean-Michel Basquiat avec Burroughs.
Mais Burroughs était capable de passer 5 heures avec un inconnu et boire des coups avec lui et de continuer. C'était aussi quelqu'un qui fouillait la nuit, si je puis dire.
Absolument, oui. Et Basquiat lui aussi. Enfin, il est...
et autour de la beat, il y a aussi cette technique que je trouve très très proche de la répétition des mots chez Basquiat, qui est le cut-up.
Absolument, avec Brian Gesin aussi, c'est lui qui a trouvé le cut-up et Burroughs s'en est inspiré.
C'est surtout ça pour moi, le rapport Basquiat-Burroughs, c'est le cut-up, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est cette technique du mix, et c'est là où on voit la riche culture polyphonique de Basquiat, parce que il s'approprie encore une fois tout. C'est-à-dire que il y a le vaudou, il y a la BD, il y a Léonard de Vinci, il y a Matisse, il y a Picasso, il y a l'art africain, il y a Dubuffet, il y a De Kooning, il y a Rauschenberg, il y a Twombly, donc il s'approprie toutes les époques, toutes les formes, et il cut, mais il cut comme un mouvement sauvage, libre, comme un homme qui danserait en permanence. Et encore une fois, c'est cette intelligence de la main, et c'est comme si ce cerveau lui parlait en permanence.
Michel Louisani.
Et en même temps, il tombe au bon moment. Moi, je me souviens d'avoir rencontré Iliana Sonnabend à New York, qui est la grande galeriste, qui était l'épouse à ce moment-là de...
Castelli.
Voilà. Et donc, elle me disait, il y a un truc qui nous est arrivé, qui était à la fois extraordinaire et épouvantable, c'est les Allemands, les nouveaux fauves qui sont arrivés à ce moment-là. Et on en avait un petit peu assez de la... du minimalisme, du formalisme, etc. Et on voulait un art plus facile, plus immédiat. Et donc, Basquiat répondait à ces critères que les marchands recherchaient. Ils ne savaient pas comment faire.
Je l'ai lu, hein, Michel, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah bon?
Non, je suis pas d'accord avec vous parce que
encore.
Non, parce que il a. Je vais faire bref parce qu'il nous reste que deux minutes, mais quand même, son œuvre est beaucoup moins digeste que les posters magnifiques de Castelli et Salomé, qui étaient quand même beaucoup plus faciles et populaires. Basquiat, comme le disait Bousteau tout à l'heure, ça reste dur de rentrer dans le tableau.
Non, je suis d'accord, c'est une très grande complexité. Et par contre, aussi ce qu'on peut dire, pourquoi aussi ça marche comme ça, c'est que n'importe où, mais n'importe où, au milieu de 100 autres œuvres, de 100 autres artistes, un Basquiat est immédiatement identifiable. Et c'est cette magie qui est inouïe, c'est-à-dire que quels sont les artistes dont on peut immédiatement ne pas avoir un doute sur qui en est l'auteur?
Non, ça c'est vrai, mais les galeristes le considéraient comme quelqu'un d'immédiat et de... Pourquoi ils l'ont pris? C'est pour ces raisons-là.
Mais peut-être pour sa personnalité et son physique également. C'est un acteur fabuleux également et quelqu'un qui a un charisme inouï.
C'est un magnifique artiste. Merci infiniment d'avoir bien voulu en parler avec nous. Merci Hugo Vitrani, merci Michel Nurizani, merci Fabrice Bousteau.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Michel Nurizani, écrivain, pour son livre sur Jean-Michel Basquiat, Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, évidemment qui vient de sortir un numéro spécial sur Basquiat, et Hugo Vitrani, conservateur au Palais de Tokyo et qui est un des spécialistes du street art. Tout cela à l'occasion de l'exposition Jean-Michel Basquiat à la Fondation Louis Vuitton. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Manuel Couturier, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. La semaine prochaine, nous allons recevoir Kamel Daoud qui va nous raconter le sujet de son livre, une visite nocturne au musée Picasso, ça va être passionnant. À 15h30, une saison au théâtre de Joël Gaillot et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.